C'est vrai que c'est bon de se retrouver là. C'est bon, je dis souvent qu'on ne peut pas être sauvé seul, nécessairement. Quand on est sauvé, on est intégré au corps de Christ. Nécessairement. C'est ainsi, ça résonne là, non ? C'est ainsi que Dieu a voulu les choses. Jean-Luc, peut-être je reprendrai le texte à la fin d'ailleurs, ce premier chapitre de la lettre aux Éphésiens, combien de fois j'ai pu le lire dans des moments où c'est difficile. Et alors, quand on lit ces paroles, qu'on a été béni de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ, de prononcer ces paroles, c'est extraordinaire. Ça me touchait parce que j'ai connu beaucoup de consolation en lisant et relisant ce texte. Et c'est le thème aujourd'hui que je veux aborder, consolation. C'est un des attributs de Dieu, un des traits de sa personne, et toute la Bible en est remplie. C'est un Dieu qui console. Donc ce sera le titre de mon message, consolation ce matin. Les épreuves, les occasions d'affliction ne manquent pas dans la vie des hommes sur cette terre, au sein même de nos églises, pour ceux qui ont même donné leur vie à Christ, il n'est nulle part dit qu'il n'y aurait pas d'affliction. Parfois d'ailleurs, ces afflictions sont encore renforcées par la culpabilité, parce que si on est chrétien, ça doit aller en permanence. Oui, des fois, il y a quand même des afflictions. Et pour peu qu'on cherche auprès de quelqu'un, justement, une consolation et qu'on trouve une parole dure, voire une parole de la Bible, eh bien, ça n'arrange pas nos affaires. Hein ? Alors ce matin, j'aurais vraiment qu'on médite là-dessus, sur cette question de la consolation. C'est la volonté de Dieu que nous soyons consolés. Et ce, à double titre. Parce qu'il a payé pour cela à la croix. Il est dit qu'il a pris nos souffrances et les afflictions. Nous verrons de quoi nous avons besoin de consoler, mais nécessairement d'afflictions, de choses qui sont passées, j'y reviendrai. Et puis, il veut faire aussi de son Église un instrument pour manifester l'amour et manifester son royaume à ce monde perdu. Et il cherche une armée en bonne condition. Or, si nous ne sommes pas véritablement consolés de nos afflictions et de notre vie passée, notre marche va être alourdie. Nos blessures continueront de nous détruire et nos blessures blesseront. Ce que disait Jean-Luc là sur cette image d'un handicapé qui, dans un accident, va percuter un autre handicapé. J'ai rajouté ça, je me dis, ben oui. Si nous ne sommes pas véritablement consolés et guéris, parce que dans le fond, il y a un peu tout ça, eh bien, nous promenons avec ça. Notre marche est alourdie et nous n'entrons pas dans ce que Dieu a pour nous. Donc, voilà un peu mon propos ce matin, que nous méditions un peu, que nous regardions cela. On va dire, ça, c'est pas glorieux. Si, c'est glorieux. C'est glorieux puisqu'il a tout accompli pour cela. Alors je vous invite à lire un certain nombre de textes. Je vais en lire quatre dans Ésaïe et puis deux dans le Nouveau Testament. Mais Ésaïe, c'est quasiment le Nouveau Testament. Hein ? Il y aurait vraiment plein de passages. Toute la Bible est remplie du Dieu qui console. Même quand il afflige, il dit « ce n'est pas volontiers qu'il afflige ». Et tout de suite, il va récupérer, quoi. Enfin, tout de suite. Des fois, ça dure un peu. Son peuple a été 70 ans en exil, parce qu'il avait péché. Mais on va lire ces textes. Ésaïe 40, par exemple, au verset 1. Consolez. Ésaïe 40, verset 1. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui, que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés, de tous ses péchés. Dans Ésaïe 12, avant, texte qui nous a été donné il y a quelque temps, Ésaïe 12, tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie, d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Tu as été irrité contre moi, mais ta colère s'est apaisée. Ailleurs, il est dit, sa colère ne dure un instant, sa miséricorde durera toujours. Et tu m'as consolé. Et tu m'as consolé. Isaïe 12, c'est merveilleux. Quelqu'un pouvait le mettre en musique. Quel beau cantique. Hein ? Ésaïe 51, versets 11 à 13. Versets 11 à 13. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme, pareil à l'herbe ? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait ? Qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur ? Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Et puis Ésaïe 61. Et ça fera la transition avec le Nouveau Testament, Ésaïe 61. Vous savez, c'est ce texte par lequel Jésus va entrer dans son ministère. Hein, on le retrouve dans Luc 4. Et dans Ésaïe 61, voilà, il est écrit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. En lisant là devant vous ce texte, je me dis, mais Robert, pourquoi vas-tu donner un message sur la consolation ? Continue finalement à lire la Bible devant tes frères. Je ne pourrais rien faire de mieux. Vous voyez ces textes qu'on lit là ? Bon, je vais continuer quand même. Mais... Non, mais vraiment, en lisant ces textes, je vous invite dans 2 Thessaloniciens 2, verset 16. Donc, je vous rappelle ce texte d'Ésaïe. Hein. C'est vraiment, vous rappelez cette scène, Jésus rempli du Saint-Esprit, revenu du désert où il a été tenté, rentre et démarre son ministère, il va à la synagogue, il prend le rouleau, c'était le rouleau d'Ésaïe, Et le rouleau est positionné à cet endroit sur Ésaïe 61. C'est extraordinaire. Hein? C'est vraiment, il souligne par là que c'est la priorité de ce qu'il vient faire sur cette terre. Il vient manifester la miséricorde, la grâce, la compassion. Il vient guérir, il vient restaurer, il vient consoler. 2 Thessaloniciens, donc 2, verset 16. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Nous verrons qu'il y a des consolations qui ne sont pas éternelles du tout. Eh bien, que le Seigneur Jésus-Christ console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Enfin, pour ces premiers textes, en Romains 15, verset 4. Romains 15, verset 4. « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Alors, de quoi avons-nous besoin d'être consolés? Alors, certains, peut-être ce matin, disent « Moi, j'ai besoin d'être consolé de rien ». Ben, écoutez, ouvrez quand même vos oreilles, peut-être il y aurait une ou deux choses que vous allez découvrir. On a besoin d'être consolé de disparition, d'être cher. Des fois, il y a des deuils dans les vies qui, excusez-moi l'expression, plombent des vies pendant des années, pendant des décennies, tant qu'il n'y aura pas une vraie consolation. On peut avoir besoin d'être consolé de sentiments d'injustice, liés souvent aux comparaisons que nous établissons entre des frères et sœurs naturels, même au sein de l'Église parfois. Nous pouvons avoir besoin d'être consolés de séparation, un fils, une fille. Souvent, il y a le problème des deux côtés. En tout cas, la souffrance est là. Divorce, séparation, le conjoint abandonné, qui peut ne pas comprendre, celui qui a abandonné parce que l'œuvre dans les cœurs et les blessures dans les cœurs, elles sont empilées depuis longtemps lorsqu'intervient la séparation. Une trahison. Sûrement d'autres choses. Chacun sait dans sa vie ce qui a abîmé sa vie en profondeur. Plus j'avance et côtoie des frères et sœurs et des gens qui viennent, plus dans chaque vie, il y a une plaie profonde. Ça n'amène pas à un désespoir, si ce n'est de l'homme adamique. Ben oui, oui, les conséquences de la chute, l'Éden, l'innocence, c'est terminé, et c'est le fruit de tout ça. Alors, face à ces épreuves, ces blessures, il y a la recherche. On recherche à être consolé. On recherche à s'en sortir. Mais il y a des fausses consolations. Parce que nous avons chanté, j'avais noté ce chant, « Tous ont besoin d'être aimés d'un amour sans limite ». Alors, la difficulté, c'est que lorsque on ne connaît pas celui par qui on peut être consolé et qui peut déverser un amour sans limite, on va aller chercher ailleurs. Et c'est vrai que c'est le lot de la nature adamique. On veut être aimé à un point tel que personne, pas un seul être humain, ne pourra répondre à cette demande. Donc nécessairement, on va avoir des problèmes. Parce qu'on va attendre des uns ou des autres des choses qu'ils ne peuvent pas donner. L'amour dont on est capable D'abord, il n'y a quasiment pas de réservoir, et quand il y a un réservoir, c'est une citerne crevassée. Donc ça ne dure pas bien longtemps. Et cette soif de l'homme d'être reconnu, aimé, apprécié, elle est de tout temps. On retrouve ça en Babel. Babel, faisons-nous un nom. Voilà le grand sujet. Là, on l'a sous nos yeux chaque jour. Chacun veut faire un nom, veut être reconnu. Proverbe 30, versets 15 et 16 nous dit « La sangsue a deux filles, donne, donne. Trois choses sont insatiables, quatre ne disent jamais assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais assez. » Il y a, si vous voulez, il y a à travers ça, on pourrait rentrer dans une symbolique, mais il y a dans le cœur de l'homme quelque chose. Il y a la pensée de l'éternité, mais tant qu'elle n'a pas fait son chemin, il y a une soif, un besoin d'être rassasié, aimé, reconnu, d'être le premier. Les exemples sont multiples, j'en donnais quelques-uns. Combien de fois une femme, pour garder l'homme qu'elle aime, qu'elle croit aimer ou qu'elle croit qu'il aime, va lui donner, entre guillemets, un enfant, espérant que l'homme va ainsi s'attacher à elle. Combien de drames ? L'homme, oui, puis s'en va. Un homme qui va rechercher, au moins en partie, l'affection d'une mère à travers une épouse. Ce n'est pas nouveau. Dans Genèse 24, au verset 67, on lit « Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. » Franchement, pour la nuit de noces, il y a mieux. « Il prit Rebecca, qui devient sa femme, et il l'aima. Ainsi fit consoler Isaac après avoir perdu sa mère. » Ça paraît comme ça, une belle histoire sentimentale, mais que de problèmes avec ça. On ne peut pas constituer... La parole de Dieu nous dit « L'homme quittera son père et sa mère. » Pour s'attacher à sa femme, les deux ne feront plus qu'une seule chair. Ne dis pas « Sois un homme, tu n'es plus un enfant. » Mais peut-être un travail d'homme n'a pas été fait, le lien n'a pas été coupé et on s'embarque dans des aventures. Dans ce registre, c'est un piège redoutable. Hein, c'est finalement ces relations multiples parce qu'on cherche le grand amour. J'ai découvert vraiment, il y a, bon, je crois, plus chez les filles, le rêve du prince charmant, quand je vois un peu l'extase devant une robe de mariée. Mais c'est merveilleux, hein. Mais bon, c'est des choses auxquelles je n'avais pas remarqué. Mais vraiment, il y a une sensibilité. Et c'est bien, hein. Mais attention, parce que on peut tomber dans des expériences qui se renouvellent. On cherche le grand amour, et puis les amours se multiplient, et puis ce n'était pas l'amour, et puis c'est la cata, et puis ça fait des drames, puis... Eh oui. Il y a de cela aussi dans l'explosion des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tout de suite, c'est des amis. Oui, il y a formellement, je ne veux pas tout condamner, mais il y a formellement, si vous voulez, quand vous vous inscrivez, bon, je peux observer ça, vous êtes des amis. Mais comment peut-on être ami avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qu'on ne connaît pas ? Il y a donc à la racine, si vous voulez. Et pourquoi cela ? Parce qu'il y a ce besoin. J'ai 10 000 amis, vous avez le compteur. J'ai 10 000 amis, mais non, tu n'as pas 10 000 amis. C'est un mensonge. Et un jour, c'est triste. Soyons bien clairs, je ne suis pas en train de condamner, il y a sûrement son utilité. Mais vous voyez, il y a un mensonge à la racine. Et quand la racine, on l'a vu, le mensonge, l'arbre qui va pousser, c'est du mensonge. Les fausses consolations, c'est tout ce qui va résulter de, pour être connu, alors je vais aspirer, à ce que je souhaite, je veux être reconnu, ça peut être professionnellement, ça peut être avoir le même niveau que ceci, avoir le même diplôme que ça, etc. Et c'est très bien, hein, formons-nous et puis trouvons, mais... Vous voyez, et le monde favorise, bien sûr, les cases, les filières, les machins, les degrés, les niveaux, les trucs. Derrière ça, un des moteurs puissants, c'est toujours d'être reconnu pour être consolé de plaies profondes. Alors ça aboutit à des déceptions. Mais je vais continuer, je vais multiplier. Je vais essayer autre chose, jusqu'à arriver éventuellement à un désespoir. D'autres vont se replier sur sa souffrance, ne pas la montrer. Et finalement, peut-être ce que je dis là est dur, mais ça revient à une espèce d'attitude orgueilleuse finalement. Je ne veux pas reconnaître, et ça peut conduire à l'endurcissement. Je ne veux pas reconnaître que je souffre de quelque chose. Alors je bricole, je colmate. Et il peut y avoir des fractures violentes. Ça peut être le repli. Ça peut être la révolte et la rébellion ouverte. Je ne vais pas multiplier les passages, mais on voit dans toute l'histoire du peuple d'Israël, son malheur vient toujours et finira par le confesser de la révolte contre Dieu. De la révolte contre Dieu. Et la révolte, la rébellion, en guise de consolation, on fait mieux. Et pourtant, c'est ce que je vous dis, le peuple hébreu est rempli de cela. Et le cœur de Dieu souffre. Ce serait un peu long, mais je vous invite à relire Lamentations 1. Je vais en lire un petit bout, mais je ne vais pas tout lire. On va dire que c'est pas gai ces trucs, Lamentations. Mais c'est intéressant parce que Lamentations 1, les malheurs de Jérusalem, ça c'est pas dans la... mais c'est le titre si vous voulez. Et quoi ? Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Elle est semblable à une veuve, grande entre les nations, souveraine parmi les États. Elle est réduite à la servitude. Elle pleure durant la nuit et ses joues sont couvertes de larmes. De tous ceux qui l'aimaient, nul ne la console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles. Ils sont devenus ses ennemis. Juda est en exil, victime de l'oppression et d'une grande servitude. Il habite au milieu des nations, il n'y trouve point de repos. Tous ses persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Toutes ses portes sont désertes, ses sacrificateurs gémissent, ses vierges sont affligées et elle est remplie d'amertume. Ses oppresseurs triomphent, ses ennemis sont en paix, car l'Éternel l'a humiliée à cause de la multitude de ses péchés. Ses enfants ont marché captifs devant le professeur. Les filles de Sion ont perdu toute sa gloire. Ses chefs sont comme des cerfs qui ne trouvent point de pâture et qui fuient sans force devant celui qui les chasse. Au jour de sa détresse et de sa misère, Jérusalem s'est souvenue de tous les biens dès longtemps son portage, quand son peuple est tombé sans secours sous la main de l'oppresseur. Ses ennemis l'ont vu et ils ont ri de sa chute. Jérusalem a multiplié ses péchés, c'est pourquoi elle est un objet d'aversion. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent en voyant sa nudité. Elle-même soupire et détourne la face. La souillure était dans les pans de sa robe et elle ne songeait pas à sa fin. Elle est tombée d'une manière étonnante et nul ne la console. Vois ma misère, ô Éternel, quelle arrogance chez l'ennemi. L'oppresseur a étendu la main sur tout ce qu'elle avait de précieux. Elle a vu pénétrer dans son sanctuaire les nations auxquelles tu avais défendu d'entrer dans ton assemblée. Tout son peuple soupire, ils cherchent du pain. Ils ont donné leurs choses précieuses pour de la nourriture afin de ranimer leur vie. Vois, Éternel, regarde comme je suis avili. Je m'adresse à vous tous qui passez ici. Regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j'ai été frappé. L'Éternel m'a affligé au jour de son ardente colère. D'en haut, il a lancé dans mes os un feu qui les dévore. Il a tendu un filet sous mes pieds. Il m'a fait tomber en arrière. Il m'a jeté dans la désolation, dans une langueur de tous les jours. Sa main a lié le joug de mes iniquités. Elles sont entrelacées, appliquées sur mon cou. J'arrête là, ça continue. Mais il y a, ça va aller jusqu'à descendre, je crois que c'est dans Lamentations 3, ça continue comme ça. Et à un moment, Jérémie, il parle pour son peuple. Il dit, voici, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Il se souvient de toutes les bonnes choses que Dieu a fait. Donc vous voyez, c'est des moments de détresse terribles. Et qu'est-ce qu'il dit ? Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais je veux quand même lire ces textes-là, parce que des fois dans les vies, peut-être qu'en entendant ces textes, certains se disent, mais dans le fond, c'est ce que je vis. Et là, moi, je me suis écarté de mon texte, mais ce n'est pas grave. C'est peut-être ce que vous vivez, des détresses profondes comme ça. La parole nous dit, Dieu nous dit, pas pour nous condamner, la parole nous explique ce qui s'est passé dans nos vies. Nous nous sommes écartés de Dieu. Et si on s'écarte de Dieu, il n'y a plus de consolation. Parce que la consolation, elle est en lui. C'est ça que nous dit la parole. Nous avons cherché des consolations ailleurs et personne ne console Israël. Parce qu'Israël s'est confié en des idoles, il s'est confié en lui-même, il s'est confié en la chair, on a parlé de toutes ces choses ces derniers temps. Et pour la consolation, elle est toujours disponible, mais en lui. Alors, j'ai listé toutes ces fausses consolations, mais je voudrais en venir. On va parler de la vraie consolation. Et on va parler de notre part pour être consolé. Eh bien, pour être consolé, la première chose, c'est de reconnaître la plaie de son cœur. Dans 1 Roi 8, verset 38. Reconnaître une souffrance ne signifie pas s'y complaire. Il y a un équilibre à trouver. Nier sa souffrance, c'est l'enfouir, se mentir à soi-même et s'exposer à de terribles explosions de colère plus tard. M'entendez ? Ne pas reconnaître qu'on souffre, je répète, il ne s'agit pas de s'y complaire, mais il y a une étape indispensable, et reconnaître sa souffrance. Sinon, elle sera enfouie et à un moment, elle explosera. Il n'y a pas d'autre solution. Pour certains, ce sera au bout de 8 jours, pour d'autres, ce sera au bout de 30 ans. Si au bout de 30 ans, ce sera encore plus terrible. Dans Jérémie 15, versets 18 et suivants. J'aime à lire ces textes parce que on pense que devant Dieu, faut être nickel, bien costaud, bien aligné, tout va bien, Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il connaît tout. Voilà Jérémie. Vous n'allez pas me dire que Jérémie, il a pas obéi à Dieu. Eh bien, Jérémie, il y a des moments, c'est difficile. Et Jérémie dit à Dieu, au verset 18, « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir ?» Et il doute. « Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr ?» C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, « Si tu te rattaches à moi, reviens, Jérémie. » Comme tu es, avec tes doutes, on l'a chanté aussi tout ça. « Reviens, reviens, reviens à moi. » Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Et puis il dit, c'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. N'allez pas chercher la consolation dans les choses d'avant. Ça va être pire que tout. N'allez pas retourner en Égypte, chercher je ne sais quel oignon ou quel parfum qui semblait bon, vous avez juste oublié la servitude. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Donc le Seigneur s'engage à nous fortifier. À nous fortifier. Pas à nous endurcir. Il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. L'ennemi endurcit le cœur. Par nos propres pensées qui se déroulent, le Seigneur nous relève, nous console pour nous affermir et nous rendre inébranlables sur le rocher. Après qu'il nous ait hissés, sur ce rocher que nous ne pouvions atteindre. Donc, premièrement, reconnaître sa souffrance. Deuxièmement, l'exposer à Dieu. Pas simplement de le bout des lèvres, oh, un peu mal. C'est quoi la plaie de ton cœur? Dis-la à Dieu. Dis-la à Dieu. Et parfois, en faire part à un frère, à une sœur, mature dans le Seigneur. Oui, prends ce risque. Prends ce risque. Oui, c'est se rendre vulnérable. Mais je crois que c'est le défi de l'Église de Jésus-Christ. Accepter d'être fragile aux yeux des hommes, mais entièrement vrai avec Dieu. Deutéronome 6, versets 6 à 9, nous dit ceci. « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. » Arrêtons de vouloir être reconnus costauds, machin, publicité. C'est pas ça le sujet. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce que l'Éternel nous aime, qui est venu nous chercher, ceux qu'il a appelés, qu'il a prédestinés, il les a appelés, ceux qu'il les a appelés, il les a justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés, ça nous a été dit. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Donc, oui, acceptons d'être vulnérables. Disons clairement les choses à Dieu. Et aussi, et là je viens, c'est vraiment, nous ne sommes pas seuls, nous sommes dans un corps. Arrêtons de courir de droite et de gauche et d'être rassasiés d'enseignements qui ne portent pas de fruits. C'est au sein d'une communauté. Je vous rappelle que les Actes des apôtres, dont on se réfère souvent pour la puissance du Saint-Esprit, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle, même si ce n'est pas facile. Le Seigneur va révéler les blessures, peut-être par des blessés qui nous côtoient, mais il va pourvoir à la guérison parce qu'il a mis dans son corps des hommes, des femmes qui nous ont précédés dans la foi, qui ont été consolés, véritablement guéris, et alors qui peuvent consoler d'autres, ce sera ma conclusion tout à l'heure. Une fois qu'on a fait ça, lâcher son mal. On chante souvent, j'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines. Alors, lâchons-les. Lâchons-les, une fois que le Seigneur les a entendus. Lâchons-les. Si vous n'avez pas lâché une fois, deux fois, ne culpabilisez pas avec ce que je vous dis, mais lâchez-les. Quand même. Lâchez-les. Affirmez aussi. Et rappeler la bonté, la justice, la souveraineté de Dieu. C'est quelque chose de très fréquent. On peut dire ça, c'est une loi spirituelle. Les passages sont multiples dans l'Ancien Testament, notamment, mais aussi après, que le peuple qui s'est sans cesse détourné, parce que Dieu est un Dieu d'alliance, mais on se détourne sans cesse. Alors, on s'éloigne, après il y a des ennuis. Je vous passe la période des juges. Alors que le peuple avait connu des conquêtes, ensuite il revient à ses anciennes voies, alors il retombe sous les pressions de l'ennemi, alors Dieu envoie un juge dans sa miséricorde qui va conduire le peuple, qui va le sortir du bazar où il s'est mis tout seul, et à chaque fois le peuple va rappeler, oui Seigneur, tes bontés, tu as fait ceci, tu as fait cela. Nous avons fait ça mardi dernier, à la réunion de prière. On s'est dit, on va rappeler ce que le Seigneur a fait. Ça édifie. C'est biblique. C'est biblique. Rappelons, Seigneur, tu as fait ci, tu as fait ça dans ma vie. Tu as fait ça, tu étais encore là et tu es encore là. Alors tu vas être là et tu vas encore être là demain. C'est important. C'est pas une méthode couée. C'est pas une méthode de soyons positifs. C'est une méthode biblique. Je respecte les commandements de Dieu. Je rappelle. Et en plus, ça le glorifie. Et il aime être glorifié. Et si nous voyons dans la révolte en nous, là c'est clair, ne tardons pas. La révolte, on s'humilie. Parce que la révolte, c'est toujours en finale. On croit se révolter contre les circonstances, contre ma condition sociale, contre ceci. En finale, la racine, c'est je me révolte contre Dieu. Grosso modo, t'as pas bien fait les choses. Donc la révolte, alors là, c'est immédiat. Prenons ce réflexe. Si la révolte est monte, Seigneur, je m'humilie. Je ne discute pas. Alors la véritable consolation, si nous faisons notre part, et c'est assez simple dans le fond, parce que Dieu ne nous demande pas des choses impossibles, il nous demande de reconnaître. C'est toujours la même histoire. Alors la véritable consolation, c'est Jésus. Jésus, il est le consolateur parce qu'il est la parole incarnée. Nous allons toujours être consolés finalement par des paroles, les paroles incluant le silence. Nous partageait ça l'autre jour. Des fois, dans des situations de deuil qui viennent de se produire, ce n'est pas d'aller faire des grands discours, mais une présence. Quelques exemples de gens qui ont reçu des vraies consolations. La femme samaritaine. Jésus, par une seule parole, va toucher le cœur de cette femme qui cherchait la consolation auprès des hommes. C'est le cas de le dire. Et ça ne va pas être des paroles mièvres. Il va lui dire, parce que ça va être la méthode de la consolation de Dieu, Dieu va nous dire qui on est et qui il est. Qui on est, qui il est. Et ça, ça apporte une consolation. Ça apporte une consolation. Le paralytique depuis 38 ans, une seule parole, veux-tu être guéri ? Jésus met le doigt sur le problème. La résignation, le doute avait saisi cet homme depuis 38 ans. Jésus touche au cœur. Il va consoler cet homme, il va le guérir, mais il va le consoler. L'affaire va être réglée. Résurrection de Lazare, c'est intéressant. C'est une consolation par un apport de vie éternelle, par l'espérance, cette assurance de notre destinée. La vraie consolation, elle vient dans nos vies, quand nous avons l'assurance de notre destinée, de oui qui nous sommes et nous allons où nous sommes. C'est encore, je le rappelais il y a la dernière fois, une affaire de position. Qui nous sommes. Dans cette résurrection de Lazare, on peut considérer rapidement le chemin de Marthe. Marthe dit, mais si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et en même temps, elle se tourne vers Jésus, elle reçoit sa parole. Jésus qui va lui dire, je suis la résurrection et la vie. Elle dit, oui, je sais, tu ressusciteras au dernier jour. Non, il dit, je suis là maintenant. Et va ressusciter. Mais devant le tombeau, elle va encore dire, mais ça sent déjà, il y a 4 jours. Ah, c'est coréen. Jésus continue. Et Jésus console par un apport de vie éternelle. L'autre consolateur, le paraclet, le Saint-Esprit. Je dis le paraclet parce que c'est l'autre consolateur, c'est une autre forme de la consolation. Le paraclet, c'est celui qui se tient à côté. Il est là. Ça, c'est de la consolation. Quelqu'un qui est là. Il est là, le paraclet. Le Saint-Esprit, c'est la promesse de Jésus. Moi, je m'en vais, je reviendrai, et entre-temps, je vous envoie celui qui, tous les jours, va vous accompagner, va être là. Alors, comment il console, le paraclet ? Eh bien, d'abord, il convainc de péché et on reboucle. Pour que nous puissions le reconnaître, saisir le salut, la libération par l'œuvre de Christ, abandonner ce péché et saisir la vie éternelle. Il y a d'abondantes joies devant sa face. Il y a d'abondantes joies où ? Devant sa face. Et comment peut-on se tenir devant sa face ? Sans être libéré de notre péché. C'est logique. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Conviction de péché, pour une vraie consolation. Une vraie consolation. La consolation, j'ai lu un passage tout à l'heure qui nous le précise, la consolation par la parole de Dieu à travers les Écritures. Toute l'Écriture, je l'ai lu en début, dans Romains, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. La consolation de Dieu est une consolation qui est liée avec l'espérance. C'est pas simplement un petit sparadrap pour guérir le truc. Il donne une autre perspective. Et la guérison est définitive quand on est entré dans cette autre perspective. Il reste des cicatrices, il reste tout ça. Mais nous sommes consolés là, véritablement. Pourquoi ? Comment elle opère cette parole de Dieu ? Parce qu'elle nous dit la vérité tout entière sur l'homme, sur ce qui s'est passé, sur l'intervention de Dieu pour restaurer et l'espérance pour ceux qui se confient dans l'œuvre de Christ et que le Père a envoyé. C'est-à-dire que la parole nous décrit l'homme tel qu'il est, tel qu'il a fonctionné, ce qui s'est passé. Et en fait, c'est la vérité qui console. C'est la vérité qui console. Beaucoup de techniques de consolation, de compensation, sont plutôt des compensations, des choses, on va empiler des choses dans les vies, et des méthodes, et des trucs. Et la parole de Dieu, elle, nous énonce la vérité. Il ne peut pas y avoir de consolation pour quelqu'un qui est dans le déni de ce qui lui arrive. Pas possible. C'est pas possible. Pourquoi la parole de Dieu ? Parce que elle n'explique pas simplement ce qui s'est passé et ce que Dieu a fait, mais elle montre le chemin, ce qu'il convient de faire, la voie à suivre. Elle ne nous laisse pas planter comme ça, en nous assenant une vérité. Même si c'est la vérité, elle nous dit maintenant, fais comme ça. Parce qu'enfin, elle nous révèle le don de la vie de résurrection en Jésus-Christ, qui permet de demeurer dans cette vérité et sur ce chemin. C'est-à-dire que la parole nous repositionne Jésus, le chemin, la vérité et la vie. La parole aussi, elle nous humilie lorsqu'elle révèle les motivations de notre cœur qui nous ont conduits dans des impasses. Mais si nous acceptons ce qu'elle nous révèle, nous sommes conduits dans une vie abondante. Et je voudrais que nous lisions dans le psaume 119 quelques versets. Dans le psaume 119, quelques versets. Par exemple, les versets 65 à 72. Psaume 119, tu fais du bien à ton serviteur, verset 65. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés, mais je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi ta loi, la loi de ta bouche, que 1000 objets d'or et d'argent. Et puis, verset 75. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Donc, oui, il y a des passages difficiles dans tout ça. Mais il nous montre le chemin. Donc c'est vraiment un encouragement. Il y a une véritable consolation à lire la parole de Dieu, je vous l'assure. Ça aussi, j'ai mis sur ma Bible souvent, vérifier et tester. Vérifier et tester. Il y a des consolations profondes à lire la parole écrite qui, évidemment, opère par le Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas demander au voisin de le faire pour vous. Et si vous ne savez pas lire, aujourd'hui, il y a des Bibles qui sont lues. Alors, faites entrer. Faites entrer. Si j'aborde ce thème de la consolation, c'est parce qu'il y a vraiment besoin. Et puis, je vais tout vous avouer. C'est intéressé comme sujet. Parce que si, dans une assemblée, de plus en plus d'hommes et de femmes qui ont donné leur vie à Christ, ont reçu la consolation de Christ. Vous savez quoi? Ils vont pouvoir consoler d'autres. Donc c'est très intéressé, mon affaire. Il y a du travail. La moisson est abondante. Les ouvriers sont peu nombreux. Et les ouvriers, ce n'est pas simplement des ministères, je ne sais quoi. C'est des hommes, des femmes matures, consolés, redressés, remis debout, selon le plan de Dieu. Je vous propose qu'on lise justement dans 2 Corinthiens, et je terminerai là-dessus, 2 Corinthiens, vous savez, Paul, il a eu du mal un peu avec les Corinthiens. De Corinthiens, chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Figurez-vous que Paul avait besoin d'être consolé. Pas costaud ce gars-là, hein ? Afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Frères et sœurs, les amis, si nous marchons dans les voies de Dieu, il y aura des souffrances et des tribulations, il ne nous a pas dit autre chose. Mais il y aura la consolation. Si nous prenons d'autres voies pour éviter l'épreuve, nous n'aurons pas la consolation. Nous irons vers des voies fausses. Paul, on ne peut pas dire qu'il ait marché de travers. Il a eu des afflictions. Ça fait partie de la marche chrétienne. Mais il a la consolation. Et par la consolation, la vraie consolation, celle qui vient de la révélation de Jésus-Christ, alors on peut consoler d'autres. Je voudrais aussi terminer, je pense à Job. J'ai dû passer là-dedans, mais je voudrais vous le dire quand même. Quand on regarde l'histoire de Job, c'est un livre extraordinaire. Job déclaré juste par Dieu. Néanmoins, problème, épreuve, matériel, familial, le deuil, il passe par tout un tas d'étapes. Des étapes de révolte, des étapes où il veut discuter avec Dieu, montrer sa justice. Des étapes où il va prononcer des mauvaises paroles sur lui. Tout un tas d'étapes comme ça. Et ça dure, et ça dure, et ça dure. Il y a des consolateurs qui viennent, des consolateurs fâcheux, qui viennent lui assonner des versets bibliques, qui sont justes. Franchement, les trois amis de Job, c'est assez juste. Sauf que, et alors, la compassion, elle est où? Vous êtes des consolateurs fâcheux, va dire Job. Mais bon, lui, il va essayer. Après, on pourrait parler du livre de Job, bien sûr. Et qu'est-ce qui va se passer? Comment va lui venir la vraie consolation? À un moment, Dieu va se positionner et dire, maintenant, Job, bon, parlons, là. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas Job. Tu veux discuter? Ben, discute. C'est moi qui vais t'interroger, puis tu vas répondre, puisque tu as l'air de savoir. Et puis ça dure, chapitre 38, 39, 40, 41. Mais il va recevoir la vraie consolation. Jusqu'à présent, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Et Job, regardez bien, il va passer d'une position centrée sur sa propre justice, sur ceci, sur cela, à il va prier pour ses consolateurs importuns. Il va être libéré, il va retrouver une vraie prospérité. Voilà une vraie consolation. La vraie consolation, c'est Dieu qui se présente à nous tel qu'il est. Voilà. Ce n'est pas des mièvreries. Et nous avons sa parole. Alors, approchons-nous de Jésus, laissons le Saint-Esprit travailler et faisons notre part, nourrissons-nous de ce qu'il nous a laissé. Et nous aurons la véritable consolation au milieu des tribulations et nous pourrons consoler d'autres. Et nous manifesterons ainsi, et c'est ce que Dieu veut, que son Église, ceux qui lui appartiennent, manifestent le royaume. Et je peux vous dire qu'il y a besoin dans le monde où nous vivons, que le royaume de Dieu soit manifesté. Amen. Seigneur, merci. Merci, Père, qui nous a consolés. Tu nous as consolés, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Seigneur, je te loue, je te bénis pour ce matin. Seigneur, nous ne voulons pas paraître, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que au milieu de nous, des hommes, des femmes, Seigneur, reconnaissant la plaie de leur cœur, reçoivent de ta part, Seigneur, la consolation dans toutes leurs afflictions, Seigneur. Seigneur, cela est possible parce que tu es le Dieu puissant, miséricordieux, compatissant, qui demande aux pécheurs simplement de venir et de reconnaître, de venir à toi tel qu'il est. Tu as pourvu pour nos péchés, tu as pourvu pour notre iniquité, tu as pourvu pour redresser nos cœurs tordus. Seigneur, viens changer les cartes mères de nos vies, Seigneur. Viens changer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Viens, Seigneur, nous instruire pour marcher selon tes voies. Oui, Seigneur, il y a d'abondantes joies devant ta face. Et Seigneur, nous voulons, en disant, tels que nous sommes, nos ennuis, nos embarras, les choses honteuses, Seigneur, nous voulons qu'elles soient ôtées pour que nous soyons devant ta face. Amen.